Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Élections législatives en France, la diaspora malienne concernée. Le Rassemblement national RN chute finalement au second tour avec 143 sièges. Son rival, le Nouveau Front populaire, termine en tête avec 182 députés. Le camp présidentiel est arrivé en troisième position. Comment le Nouveau Front populaire de gauche a-t-il réussi à s'imposer face à l'extrême droite? Nos compatriotes ont-ils joué un rôle dans cette élection? Quelle explication à cette alliance contre nature pour affronter le parti d'extrême droite du Rassemblement national RN? On en parle dans ce grand dialogue avec trois invités: Moussa Doumbia, membre du collectif Mes Propres, Gaussou Koulibaly, président des étudiants maliens à Dijon en France, au téléphone, et Dr Souleymane Diarra, enseignant-chercheur à la faculté de sciences juridiques et politiques de Bamako. À la présentation, je suis Brana Kilo Maïga, vous qui nous suivez sur 85 radios partenaires de Studio Tamani et 4 télévisions. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Tout d'abord, nous allons commencer avec vous, Dr Souleymane Diarra. Quel est votre regard sur cette élection législative en France?
Alors, rapidement, c'est les regards que je porte sur ces élections-là. Je voudrais commencer d'abord par, si vous voulez, les motivations du président Macron. Pourquoi un président, au cours d'un second mandat, après avoir fait déjà 3 ans, parce qu'il reste quasiment que 2 années, si on peut dire ainsi, et qui décide donc de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer les Français à de nouvelles élections? Je pense que la majorité, ce qu'on appelle là-bas la Macronie, avait parlé de clarification, que le président voudrait fondamentalement aller vers une clarification. Mais je pense qu'il y avait une volonté, n'est-ce pas, de récupération fondamentalement, parce que en face de lui, il y avait une gauche largement divisée. Et cette division, je pense que ce qui a commencé depuis les élections, n'est-ce pas, les européennes, la question palestinienne est encore arrivée et donc la gauche était véritablement éclatée. Donc aller à des élections à ce moment précis, je pense que le président voulait fondamentalement récupérer, mais ça allait en partie quand même propulser, n'est-ce pas, le Rassemblement national. Donc ils avaient donc une volonté, n'est-ce pas, de récupération, mais malheureusement il faut dire que sauf qu'à 3 jours avant les élections, la gauche, contre toute attente, est arrivée, n'est-ce pas, à se réunir. L'ensemble de la gauche est arrivée à se réunir 3 jours avant pour sortir un programme commun, pour se mettre d'accord sur des listes de candidatures au niveau d'un certain nombre de circonscriptions. Je pense que ça a été l'élément fatal, en tout cas, pour le camp présidentiel, effectivement. Et la suite est effectivement connue. Là, pour le premier tour, le Rassemblement national est arrivé donc en tête, mais je crois que ça a été changé un peu, n'est-ce pas, au second tour. Alors, donc, je pense que aujourd'hui, le président est gravement dans une situation d'impopularité extrême, effectivement. Et ces élections devraient servir, effectivement, comme il l'a dit, d'aller vers une clarification, parce que sa propre majorité, à mon avis, lui a laissé seul. Quand on va à des élections, ceux qui sont de la majorité, en principe, veulent souvent s'afficher avec la photo du président derrière. Vous avez dû remarquer que pendant ces élections-là, l'ensemble des candidats au niveau du camp présidentiel, personne ne s'est affiché quasiment avec les photos de fond, n'est-ce pas, du président. Donc, sa propre majorité, on peut dire, donc, lui a laissé seul. Donc, pensant que tout cela sera profitable un peu au Rassemblement national, mais malheureusement, il faut dire que la conclusion, c'est que le président a perdu. La majorité a perdu sur tout le tableau, parce que bon, finalement, le nouveau front populaire vient donc en première position, suivi donc de la majorité présidentielle, et enfin le Rassemblement national vient en troisième position. Donc le président, le camp présidentiel, à mon humble avis, a perdu et sur toute la ligne. Maintenant le reste, ça dépendra donc la question de la primature. Est-ce qu'on va vers est-ce que la primature va-t-elle revenir?
On va en parler au cours de ce débat. Alors, quelle lecture faites-vous de cette élection anticipée des législatives en France?
Bonjour déjà. Et
Alors, je vais sans doute aller à peu près dans le même sens que mon co-débatteur, professeur Diarra, ou docteur, pardon, le docteur Diarra. Seulement, ma lecture diffère un petit peu. C'est-à-dire, Macron a voulu ces élections à la suite des européennes parce que le RN est arrivé en tête pendant les européennes. Et comme il l'a dit, ils ont parlé de clarification, mais le fond, c'est que avant les européennes, si vous voulez, le clan Macron, le pouvoir en place, n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée, déjà. Donc, ils avaient énormément de peine à faire passer des lois. On l'a vu sur la dernière loi d'immigration, où ils ont été obligés de composer avec le RN pour faire passer ces lois-là. Et donc, ils ont dû durcir la loi qu'ils avaient proposée et qui avait fait sujet de plusieurs amendements par la gauche, mais qui a été véritablement modifié par le RN et qui a pris un tournant très radical dans toujours la restriction de ce que les étrangers peuvent avoir comme avantage ou même comme tout simplement droit sur le territoire français. Donc, il avait conscience qu'il était majoritaire, mais il n'avait pas la majorité absolue et il lui fallait une majorité absolue pour pouvoir mettre en place, en toute quiétude, sa politique durant le reste de son mandat. Comme l'a dit le docteur Diarra, il espérait sur la division de la gauche et sur la question de « je suis le républicain, en face, ce ne sont pas des républicains ». Et donc, voter pour le républicain et maintenant, donnez-moi la majorité absolue pour que derrière, je puisse appliquer mes projets politiques. D'accord. Ça a été un échec, d'accord, malheureusement.
Le collectif Mes Propres est de quel bord politique ?
Nous, on est apolitique. On n'a pas. On a été créé principalement pour essayer d'apporter à notre façon une amélioration au fonctionnement du service consulaire du Mali, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de problèmes au sein du service consulaire du Mali à Paris. Aujourd'hui, tout n'est pas fait. Il reste beaucoup de choses à faire améliorer, mais on a eu des résultats tels que l'obtention des passeports dans de meilleures dispositions, l'amélioration des services au sein du consulat et tant d'autres choses. Mais il est vrai que il y a encore beaucoup de choses à faire.
Ces élections ont eu lieu ici au Mali ?
Ces élections ont eu lieu au Mali parce que, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle des Français de l'étranger qui ont le droit de vote. Le Mali fait partie de la 9e circonscription qui regroupe l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb.
Et comment ces élections ont-elles été organisées quand on sait qu'il n'y a pas d'ambassade de France au Mali ?
Il n'y a pas d'ambassadeur.
D'ambassadeur, oui.
Mais il y a l'ambassade.
Oui.
Il y a un chargé de mission. Il y a un consulat et c'est là-bas que ça se passe. Donc, les gens ont voté. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un élément assez important qui est que dans la 9e circonscription, qui est l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb, au premier tour, le RN est quand même arrivé en tête.
Ici au Mali ?
Au Mali, je ne me rappelle pas exactement, mais je sais quand même que dans la 9e circonscription, dont fait partie le Mali, et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, plus le Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, le RN est arrivé premier, au premier tour.
Combien évolue-t-on le nombre des électeurs au Mali, si vous avez une idée ?
Non, je préfère ne pas dire de bêtises. J'ai lu les chiffres il y a 2 jours. Mais je ne voudrais pas dire des bêtises, je suis désolé.
D'accord. Gaussou Koulibaly, vous êtes président des étudiants maliens à Dijon en France. Comment les Maliens en France réagissent à ces résultats des législatives ?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis le président de l'Association malienne de Dijon, qui regroupe des Maliens à Dijon et les étudiants maliens à Dijon, donc des étudiants et des non-étudiants. Donc ici, on a vécu les élections pas très bien. On a un de nos membres qui a même été victime d'une agression verbale raciste des électeurs du RN dans les trams et qui nous a fait relever ses faits et on a on a porté plainte. Donc, parce que pendant les deux tours des élections, c'était très tendu ici en France, c'est tendu. Donc, bon, au premier tour, après le résultat du premier tour, comme tout le monde a constaté, les candidats du parti Rassemblement National étaient en tête presque partout. Et donc, les paroles se sont libérées, les paroles racistes se sont libérées. Et on a vu plusieurs cas dans les médias, mais même dans ma ville, ici à Dijon, il y a eu un cas dont on a été témoin. Donc, ça nous a inquiétés. Et même pendant la semaine entre les deux tours, on a fait même des réunions et on a informé nos adhérents de ne pas trop se rapprocher dans les endroits où il y a beaucoup de rassemblements, de ne pas se retrouver dans des situations délicates. Donc, on a mal vécu ces élections et au final, les Français se sont exprimés, ils ont retrouvé la valeur de la France parce que pour moi, vu la devise de la France, l'égalité, fraternité, liberté. Donc, avec le résultat final, on a été soulagé pour ne pas avoir le Rassemblement national au pouvoir.
D'accord. Vous avez dit qu'il y a un Malien, un de vos camarades a été agressé verbalement. Pour quelles raisons a-t-il été agressé?
Ah ben, pour des raisons de sa couleur de peau, tout court. Parce que pour la personne qui l'a agressé lui a dit parce que le résultat des élections, c'était le 9 et non le 7. Donc, il a dit après le 8, on va enculer tous les comptes enquêtés. Ce sont ces mots. Donc, on a été très, très, très. On s'est mobilisé pour ne pas laisser cette affaire comme ça. Donc, on a porté plainte. Et puis, voilà. Donc, il a été agressé en raison de sa couleur de peau.
D'accord. Alors, comment les Maliens se sont-ils organisés en France pour ces élections législatives?
Oui, donc, les Maliens qui ont la nationalité française, je pense que y en a qui ne pas beaucoup d'attention à la politique, mais je pense que entre les deux tours, il y a eu beaucoup, même dans mon association, on a communiqué pour mobiliser les gens à aller voter, ceux qui ont la nationalité, et puis ceux qui n'ont pas la nationalité, eux, ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que c'est les Français qui votent. Donc, on a mobilisé nos compatriotes qui sont franco Malien à aller voter pour les candidats de Nouveau Front Populaire.
D'accord. Diarra, vous l'avez dit, le grand gagnant du premier tour, le Rassemblement National, a chuté finalement au second tour. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce rebondissement?
Bon, je pense que. Alors, il faut peut-être rappeler, ça va peut-être pas trop d'histoire, mais c'est vrai que. Je pense que fondamentalement, les Français n'ont peut-être jamais voulu donner véritablement le pouvoir au Front National. C'est-à-dire que depuis le papa, le Front National, jusqu'à Marine Le Pen, ce qu'on appelait aujourd'hui le Rassemblement National, elle a mis de côté son papa pour aller vers ce qu'on appelle un processus de dédiabolisation, n'est-ce pas, du parti, pour changer même le nom du parti, pour tenter de s'intégrer. Avec le jeu, vous avez vu que pendant le second mandat de Chirac en 1997, il est donc arrivé, n'est-ce pas, au second tour. Donc, toujours, il y a donc un blocage au nom, n'est-ce pas, de l'appel patriotique. Donc, son papa n'a pas pu arriver au second tour. Et pendant le premier mandat du président Macron, Marine Le Pen est allée, n'est-ce pas, au second tour avec lui. Deuxième mandat encore. Il y a donc toujours cette hypothèse-là que le Front National se rapproche toujours, n'est-ce pas, du français. Mais chaque fois et toujours, comme d'habitude, les Français se ressaisissent à la dernière minute et l'ensemble des blocs, n'est-ce pas, s'opère. On peut dire que c'est le premier parti en France aujourd'hui, fondamentalement. C'est toujours toujours c'est un rassemblement qui arrive, n'est-ce pas, à les battre, quoi. Donc, je pense que leur philosophie est connue, quoi. C'est la haine de l'étranger. Rappelez-vous, elle avait dit que s'il passait Bardella, que même les Western Union que les Maliens envoyaient ici, qu'elle va mettre un frein à tout cela serait arrêté, quoi. Sans oublier toutes les autres conséquences, les aides sociales, au niveau du logement. Donc, il y a une haine viscérale contre, n'est-ce pas, les éléments de la diaspora. Et ça fait que, fondamentalement, les gens ont dit, bah, attention, ils sont déjà à la porte. Et s'ils sont là, voici, n'est-ce pas, les conséquences. Je crois que c'est pour cela. Il y a eu donc une sorte, n'est-ce pas. Moi, je pense que toutes les diasporas africaines, ils viennent parler, n'est-ce pas, de la diaspora malienne de France. On est quand même 600 000, quoi, sous son contrôle, n'est-ce pas, 600 000 Maliens, donc, qui ne sont pas tous intéressés. Ce n'est pas tous les 600 000 Maliens qui votent, mais c'est fondamentalement les binationaux. Or, Dieu merci, aujourd'hui, on a beaucoup de binationaux aujourd'hui. Moi, je peux citer, aujourd'hui, il y a 42 élus franco-maliens au niveau des, n'est-ce pas, des mairies, quoi, même si la majorité, c'est au niveau de la banlieue. Mais à Paris, au 18e, quand même, on a un maire adjoint, n'est-ce pas, malien. Donc, il y a quand même une quarantaine de maires de franco-maliens qui sont maires adjoints au niveau, n'est-ce pas, de l'ensemble des mairies. En tout cas, sans les chiffres exacts, mais je sais qu'au moins, il y a une quarantaine. Non, ce sont ces binationaux-là qui votent, effectivement. Et je pense qu'ils se sont, pour une fois, il y a une mobilisation extrême de la diaspora malienne, de la diaspora sénégalaise. Toutes les diasporas se sont mobilisées pour effectivement barrer la route au Rassemblement national.
Malgré que les binationaux pèsent lourd en France, vous avez parlé de haine envers ces étrangers. Celui qui au téléphone, Gaussou Koulibaly, parle d'ailleurs de l'agression d'un étudiant malien. Comment explique-t-on qu'un malien soit agressé à cause de sa peau, comme il l'a si indiqué?
Oui, mais c'est la marque de fabrique, hein, du Rassemblement national. C'est ça un peu. C'est chaque fois et toujours cette haine viscérale à l'encontre, n'est-ce pas, des étrangers. Et je pense que c'est vraiment la c'est, j'ai envie de quoi, c'est dans le gène même des.
Il parle plutôt qu'il a été agressé par le camp de Rennes, le Rassemblement national.
Oui, c'est ça. On va dire, heureusement que ce n'est pas l'agression physique, c'est l'agression, une fois verbale, hein, mais Badiel le sait, quoi. C'est tous les jours comme ça, quoi. Au niveau du boulot, ils ne se rendent pas compte, il y a des propos qu'on tient, mais qui peuvent effectivement agresser quelqu'un, quoi, fondamentalement, quoi. Mais je pense qu'il y a toujours ce racisme rampant qui ne dit pas son nom, qui est visible dans plein de services où des gens témoignent fréquemment, et je pense que mon co-débatteur est mieux placé, n'est-ce pas, pour en parler, bien sûr.
Le camp présidentiel est arrivé à la troisième position. Est-ce synonyme d'échec de la gestion de Macron au pouvoir?
Oui, manifestement, je pense que quelqu'un qui aura fait un mandat et demi, qui ne trouve pas une majorité absolue pour faire passer toutes les lois, est obligé de passer en force. Passer en force, c'est l'utilisation abusive du 45-3, c'est ça? Voilà, n'est-ce pas, le 49-3, les fameux articles. Donc c'est qu'il n'a pas de majorité absolue, une majorité relative. Donc, c'est fait que toutes les ambitions qu'il a pour mettre en œuvre son programme, la question de la retraite, pas mal de questions, et chaque fois, c'était quand même un blocage, quoi. Donc, fondamentalement, je pense que le président français aujourd'hui est au plus bas de son score d'impopularité. Et c'est pour cette raison que, malgré un second mandat, que son parti arrive au troisième niveau pour les premiers tours, quoi. Ça veut donc dire, en tout cas, que ça veut dire que, fondamentalement, la France aujourd'hui est dans un blocage. Ces élections constituent l'exemple palpant, parce que on ne sait même pas comment ça va se faire aujourd'hui. Le nouveau Front populaire, c'est compliqué. Ils viennent en première position. Et aussi, malheureusement, ils n'ont pas de majorité absolue. C'est une simple majorité relative, effectivement. En principe, ils vont donc avoir la primature. Est-ce que le président va accepter de les remettre, n'est-ce pas, la primature? Et je ne le crois pas. Est-ce qu'il va vouloir faire une alliance avec la droite? Ça va être compliqué. Moi, je n'exclus pas que d'ici une année, conformément à la Constitution française, qu'il y ait une motion de censure contre le nouveau gouvernement, parce qu'à ce jour, il n'a pas capté que son premier ministre démissionne pour donner les pouvoirs au nouveau Front populaire. S'il met un nouveau premier ministre qui ne sort pas du
rang... On va en parler du nouveau premier ministre bientôt. voilà. on parle de l'extrême gauche, l'extrême droite. Quel qualificatif peut-on donner à cela? Extrême gauche, extrême droite?
C'est plus, si vous voulez, des notions qui se rattachent à des idéaux politiques, à des courants politiques qui sont mis en place. L'extrême gauche fait référence principalement au communisme, qui trouve ses origines dans la Russie actuelle, dans l'ancienne URSS, et avec ses idéaux où l'État travaille pour tous et tout le monde travaille pour l'État, pour grossir les traits. Maintenant, l'extrême droite, c'est la partie de la population qui souhaite vivre dans un entre-soi qui est fondée uniquement sur l'exclusion de tous les autres. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une séparation franche entre les deux extrêmes. Maintenant, pour le cas de la France, et pour essayer de rebondir un petit peu sur ce que disait tout à l'heure M. Diarra, c'est que en France, l'extrême droite, depuis De Gaulle, n'est pas arrivée au pouvoir. Mais il faut quand même se rappeler qu'on parle de la France de la République de Vichy, qu'on parle de la France de l'esclavage, qu'on parle de la France de la colonisation, qu'on parle de la France du Code noir. C'est-à-dire, même après l'abolition de l'esclavage, il y a cette France-là qui a fait voter un Code noir qui était appliqué à des personnes à la peau noire et qui a été voté par Napoléon à l'époque. D'ailleurs, il y a certains qui pensent que ça n'a toujours pas été aboli officiellement. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais toujours est-il qu'il y a quand même ce passé-là qui existe en France et qui est le racisme envers les personnes de couleur. Parce qu'après, il y a eu des différences aussi, des traitements quand il s'agissait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de l'arrivée des Italiens et des Espagnols, qui ont aussi subi le racisme de la part des Français. Il n'y a pas très longtemps, j'avais un collègue qui était italien et qui me racontait, qui a mon âge à peu près, et qui racontait son histoire comme quoi il se faisait rembarrer dans certaines zones, notamment dans les petits bourgs, donc dans les petits villages, en se faisant traiter des sales italiens. Donc, en France, il y a un racisme qui existe depuis pratiquement toujours.
Au niveau de l'extrême droite?
Au niveau de l'extrême droite. Et même au niveau de la population. Parce que ce qu'il faut retenir, surtout dans ces élections, est que, en termes de vote absolu, le RN est premier. Il y a 10 millions de votes pour le RN seul. Le nouveau Front populaire, ils ont 7 millions. Ils ont plus de députés, mais ils ont 7 millions de votes. Donc, s'il faut prendre les chiffres absolus, le RN, c'est le grand gagnant de ces élections-là. Et dans 2 ans, c'est quoi les perspectives? Et aujourd'hui, si le pays demeure ingérable, comme le disait M. Diarra, on va se retrouver dans une situation où la gauche va arriver au pouvoir, mais elle ne pourra rien faire. Parce que Macron va pas les laisser faire, ou parce qu'ils n'ont pas la majorité absolue. Et de ce fait, ils ne pourront pas faire voter les lois qu'ils ont proposées pour être élus.
Donc la droite, l'extrême droite est à craindre?
L'extrême droite est toujours à craindre. Surtout quand il s'agit de personnes comme nous, c'est-à-dire des étrangers sur un territoire. Forcément, on a peur de l'extrême droite. L'un des cas récents, le plus récent, c'est l'Italie, c'est les États-Unis, c'est l'Espagne. Et on voit très bien ce qui se passe dans ces pays-là depuis 2 ans, 1 an, 3 ans, où l'extrême droite a réussi à avoir le pouvoir. Et aujourd'hui, en Europe, on s'oriente, parce que déjà l'Europe de l'Est, on n'en parle plus, C'est devenu l'extrême droite, c'est fermé, tout le monde le sait, on l'a vu avec la crise des migrants, tout ce qui est arrivé aux migrants en Europe de l'Est.
Mais qu'est-ce qui est en train de faire la force de l'extrême droite quand on regarde le discours de François Hollande qui vient d'être élu député, qui disait qu'il faut tout faire pour barrer la route à l'extrême droite?
En fait, alors, j'ai envie de dire que depuis 40 ans, les politiques français ont travaillé à ce que l'extrême droite arrive au pouvoir sur deux, trois éléments. Premier élément, aucune ambition politique affirmée pour éviter l'arrivée des extrêmes au pouvoir. François Hollande, qui parle aujourd'hui en disant qu'il faut barrer, c'est lui qui a parlé de la déchéance des nationalités. Un. Deux, Macron a fait voter il y a quelques mois une loi sur l'immigration. C'est la pire loi d'immigration que la France ait jamais connue, de nos jours en tout cas, en attendant que le RN arrive. Et avant lui, il y a eu déjà depuis Chirac les questions où on a parlé du bruit et de l'odeur ou des choses comme ça. Et ça, c'est déjà dans le dialectique et dans le comportement. Maintenant, sur le plan politique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce qui est économie, tout ce qui va être restructuration de la société et solidification de l'économie intérieure, ces politiques ont travaillé dans un processus de mondialisation, d'externalisation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? Par exemple, la Constitution européenne, article 1. Être un pays démocrate, article 2, avoir une économie de marché. Donc, une économie libre. Et aujourd'hui, on sait très bien que le marché n'est pas régulé, qu'on laisse cours à des investisseurs. En France, il y a une désindustrialisation qui s'est passée en 20 ans. On a créé des déserts et des déserts industriels. Vous ne pouvez pas imaginer, quand j'étais étudiant, j'avais la chance de pouvoir voyager et de faire des études de cas dans plusieurs villes. Vous avez des villes fantômes. Vous avez des endroits en France où, quand vous arrivez, vous avez l'impression d'être au fin fond d'un village africain. Pour ne pas dire... Je ne voudrais pas être péjoratif à ce niveau-là, mais je veux dire... L'imaginaire qu'on se fait de la France, elle n'est pas réelle sur ce plan-là. On a laissé le pays s'appauvrir parce qu'on a désindustrialisé, parce qu'on a tué l'économie, on a financiarisé. Et Macron en est aujourd'hui un grand chevalier. Ce qui fait que les populations des petites villes et des petites communes qui se sentent complètement larguées par la mondialisation et lésées par le système et le modèle économique qui s'impose, on leur explique que c'est l'étranger qui vient leur enlever le pain de la bouche. Et eux, forcément, ils vont y croire. Puisqu'on leur explique, attention, Moussa est venu chez vous faire ses études, il prend un poste chez vous. Le poste que votre fils devrait avoir. Le poste que vous-même, vous devrez peut-être avoir. Donc c'est Moussa le problème. C'est pas parce que le système fait que au lieu qu'il y ait trois postes de travail, il n'y en a qu'un seul, eh bien, on va vous dire, c'est parce que Moussa est là que vous n'en avez pas.
D'accord. Gossou Koulibaly, comment la victoire de l'extrême gauche a-t-elle été accueillie en France?
L'extrême droite, je dirais qu'ils n'ont pas... Ce n'est pas une victoire. Mais après, ils ont fait un grand percée, ils ont eu beaucoup de députés, mais c'est pas une victoire. En fait, ils n'ont pas la majorité, non. Et même dans les groupes, dans les trois blocs, ils sont troisième à l'Assemblée nationale. Donc, ils n'ont pas la majorité ni absolue ni relative, et ils ne sont même pas deuxième, ils sont troisième en ce moment. Donc, c'est pas une victoire. Mais leur percée, le fait qu'il y a eu plus de 10 millions, même 11 millions ou presque 12 millions de Français qui ont voté pour eux, ça nous inquiète quand même parce que ça montre que l'extrême droite commence à s'approcher s'approcher très sérieusement du pouvoir. Donc, on a peur pour les élections à venir qu'ils arrivent au pouvoir. Comme l'a dit mon préfet, celui qui vient de parler, donc, c'est vrai, il voit, leur discours, c'est de dire aux Français que l'étranger qui est là vient leur piquer leur boulot, vient leur piquer leur travail, leur nourriture. Et puis, ils sont en train de dire à tous les Français que l'immigration est liée à l'insécurité. Que l'insécurité qui est en France est liée à l'immigration. Alors que il y a des franco-français qui commettent des délits, des crimes tous les jours, mais on ne parle pas de ça dans les médias ici en France. Mais dès lors qu'il y a un étranger qui commet un crime ou un délit, mais on passe toute la journée avec certains médias ici qui sont connus, des médias d'extrême droite, qui passent toute la journée à relayer ces genres d'informations à la télé. C'est ce qui fait que même un campagnard, un Français qui habite dans les campagnes, qui n'a jamais croisé un étranger, pense que c'est l'étranger qui a la source de ses problèmes. Alors que tel n'est pas le cas. Les étrangers sont là pour travailler, d'autres sont là pour faire leurs études, il y a d'autres qui sont là juste pour faire du tourisme. Donc, il ne faut pas que nous aussi, on se bat pour montrer partout où on va, que ce soit à l'université ou dans nos différents lieux de travail, à montrer aux Français qu'on est là pour travailler, on est là pour faire nos études, on n'est pas là pour voler les terres comme l'extrême droite est en train de faire croire. Donc, nous, on montre les bonnes images de nos pays. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours quelques personnes, comme dans toutes les races, dans toutes les ethnies, il y a toujours quelques-uns qui vont commettre des crimes et des délits. Donc, ce n'est pas spécifique à une tranche de la population. C'est partout la criminalité. Donc, c'est ça.
Dans son discours, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, dit ceci, je cite, « Nos députés joueront pleinement leur rôle au sein de grands groupes qui pèsera dans les rapports de force en Europe, refuser la submersion migratoire, l'écologie punitive et la confiscation de notre souveraineté. » Cette déclaration est-il à craindre pour vous?
Ben non, pas du tout, puisque déjà, il parle de l'immigration clandestine, mais après, même l'immigration régulière, il voulait restreindre. Donc, même les visas étudiants, ils veulent restreindre tout ça. Mais puisqu'ils ne sont pas au pouvoir, donc, ces grands mots qui sont déjà rédigés pour lui, c'est des pipeaux pour moi. Ça ne me fait pas peur. Je sais que le peuple français aura la conscience de qui il est et puis de ce qu'il veut. Parce qu'ils ont connu le régime de Vichy. Donc, ça, c'est pas loin dans l'histoire. On ne va pas remonter jusqu'à dans les colonisations, dans l'esclavage. Mais ils ont connu. Il faut que les Français révisent leur histoire. Donc, c'est tout.
D'accord. On vient au Premier ministre. Qui de Jordan Bardella, Gabriel Atta, actuel Premier ministre, qui a rendu d'ailleurs sa démission ce 8 juillet 2024, Emmanuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, sera désigné selon vous Premier ministre de la France?
Moi, je crois. Oui, je ne crois pas, je veux dire. Alors, le Premier ministre aurait démissionné, mais on sait que le président a souhaité qu'il y reste.
Qu'il reste jusqu'à...
Qu'il reste. Oui. Bon, je pense fondamentalement que ça va être le jeu du chat et de la souris. Je disais tantôt qu'en principe, le nouveau Front populaire doit normalement donc avoir, n'est-ce pas, la primature. Mais je me dis que le président Macron, dans ses manœuvres, pourra agir de telle sorte que les postes ne lui reviennent pas. Et toute chose qui ouvre donc la voie à ce qu'on appelle voilà, des soubresauts, quoi, des hypothèses inconnues. Quoi. On est vraiment dans l'inconnu. C'est-à-dire que je n'exclus pas que, sachant bien comment il fonctionne, de tenter de s'allier avec ce qui reste, si on peut dire, de la droite, pour imposer un premier ministre pour gouverner, n'est-ce pas, la France. Parce qu'on est fondamentalement dans une impasse, effectivement. Si cette hypothèse arrivait, je disais aussi que, bon, ce n'est pas exclu qu'il y ait donc une motion de censure contre ce gouvernement-là, et conformément donc à la Constitution française, pour faire tomber, pour dissoudre le Parlement, quand les élections ont eu lieu, il faut au minimum attendre un délai d'une année pour pouvoir aller, n'est-ce pas, de nouvelles élections. Donc, moi, je me dis que si le Premier ministre n'est pas nommé dans les rangs du nouveau Front populaire, systématiquement, je pense qu'il faut s'attendre à une crise, à une motion de censure que le RN, Marine Le Pen et les partisans pourront donc faire tomber, n'est-ce pas, ce gouvernement. Donc, moi, je n'exclus pas que d'ici le mois de juin prochain, qu'on puisse aller, n'est-ce pas, à une nouvelle élection, puisque le président sera obligé de dissoudre encore, n'est-ce pas, le Parlement, je veux dire, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, pour que les choses puissent être davantage, n'est-ce pas, clarifiées. Ou la deuxième hypothèse, peut-être la pire, comme le président sait aujourd'hui qu'il est extrêmement impopulaire et que nous sommes à un blocage, à une crise, il n'a pas de majorité, utiliser les 45-3, etc., qu'un moment va arriver, le président va peut-être accepter de se démettre en cours de mandat, appeler les Français pour aller à des nouvelles élections
présidentielles.
C'est invraisemblable, mais la solution est
le Premier ministre sera a-t-il connu avant la session inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale qui est prévue pour le 18 juillet prochain?
Raisonnablement, si on suit la logique institutionnelle normale, je pense qu'il est tenu, enfin, j'imagine, de prendre ce nouveau Premier ministre-là pour aller à cette inauguration-là, j'imagine.
D'accord. Quel rang sera du Premier ministre futur de la France, selon vous?
Alors, je ne partage pas tout à fait l'analyse de Dr Diarra, parce que déjà, l'actuel Premier ministre, du coup, Attal, dans son discours d'après l'élection, il laissait entendre qu'il assumerait ses responsabilités jusqu'à ce que le président accepte sa démission, ou du moins jusqu'à ce que, tant que ceci est nécessaire, ça laisse entendre qu'il pourrait continuer, et il a évoqué la question des JO.
Mais pourtant, Macron lui a demandé aujourd'hui, ce mercredi, à rester au pouvoir afin de garantir la stabilité
du pays. Tout à fait. Et je ne pense pas, justement, qu'il partira avant la fin des JO à Paris. C'est ma lecture de la situation. Et du coup, après les JO, et malheureusement, la fin des JO, ça trouvera qu'on a déjà inauguré la nouvelle Assemblée. Mais après cela, je pense que Macron finira par céder et donner la primature au nouveau Front populaire. Seulement, le pays sera bloqué, parce que le nouveau Front populaire n'a pas une majorité absolue. Donc, on aura beaucoup de mal à faire voter une loi ou n'importe quelle loi. Donc,
l'avenir de la France sera sombre.
En tout cas, elle est incertaine en termes de... Attention, parce que dire que l'avenir de la France sera sombre, c'est un peu trop dit pour moi, parce que le monde politique...
Parler des incertitudes, quand même.
Oui, il y a beaucoup d'incertitudes politiques. Mais c'est quand même un grand pays où vous avez une économie assez solide, quand bien même il y a des difficultés. Et puis vous avez d'autres structures, d'autres leviers qui sont en place et qui peuvent continuer à fonctionner. Mais ce ne sera pas une première en Europe. Hein. La Belgique l'a connu et d'autres pays. L'Allemagne de Madame... de Madame Merkel l'a connu pendant des longs mois. Et donc, cette crise institutionnelle en Europe, comme je disais tantôt, n'est pas de l'apanage de la seule France. Et puis, je pense que ça se passera. Mais je ne saurais pas le dire.
Au regard de tout ce que vous dites, quelle politique sera menée pour le pays ?
Je pense que on va se retrouver comme au temps de Jacques Chirac pendant la cohabitation. On va l'appeler peut-être Jacques Chirac, on l'appelait le roi fainéant. Macron, je ne sais pas quel nom on lui donnera, mais on va vivre quelques années de paralysie avant les élections présidentielles prochaines. D'accord. Et après, il y aura des mesurettes qui seront votées, des petites lois qui n'auront pas une grande influence sur la vie politique. D'accord. Mais surtout, et c'est là où je pense que ça va être très compliqué, juste pour finir là-dessus, c'est que 2027, il faut que la gauche arrive au pouvoir, selon la vision de la gauche. Mais selon la vision du clan Macron, ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Et selon la vision de l'extrême droite, ce n'est pas ce qu'il faut non plus. Donc, il y a une forme de triangulaire qui va se mettre en place où chaque parti va essayer de tirer la couverture sur elle. Et à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui va bouger. On vivra un statu quo.
On me fait signe qu'il nous reste 5 minutes. On va essayer de faire un tour de table avant la fin de cette émission. Gaussou Koulibaly, est-ce que ce résultat pourrait changer les rapports de la France avec l'Afrique ?
Je dirais pas ça, ça va plus jouer sur la politique franco-française, je pense. Après, ce qui est de la politique internationale de la France, je ne pense pas que ça pourrait jouer beaucoup, mais on verra par la suite, parce que même la France, ils sont traversent un moment d'incertitude. Donc, on verra par la suite. Mais pour moi, pour l'instant, c'est un problème franco-français pour l'instant.
D'accord. Alors, cette victoire du Front populaire aura-t-elle des avantages pour nos compatriotes en France ?
Bon, ils n'ont pas la majorité absolue, mais ils ont pesé beaucoup à l'Assemblée nationale. Leurs propositions, pas seulement pour les diaspora, mais pour la classe moyenne, leurs propositions semblent très intéressantes et pour les étrangers d'ici et pour même pour les Français qui touchent le SMIC, puisqu'ils veulent augmenter les salaires minimum à 1600 euros. Donc, ça, ce sera pas mal même pour les Français ici. Et pour les étrangers, ils proposent que les étrangers qui sont ici et qui n'ont pas de papier, donc ils veulent abroger déjà la loi d'immigration prise par Macron et puis faciliter les démarches pour régulariser les sans-papiers.
D'accord. Privé d'une majorité absolue, la gestion de Macron pourra-t-elle changer du côté de l'Afrique ? Est-ce le rapport, il y aura des changements de rapport entre la France et l'Afrique ?
Moi, je ne crois pas fondamentalement. Je pense que l'étudiant vient de le dire qu'il y a des politiques internes franco-françaises, mais la diplomatie française fondamentalement, comme aux États-Unis, je pense que quel que soit le pouvoir qui arrive au pouvoir, droite ou gauche, il y a une diplomatie entre la politique à l'étranger, la politique n'est pas à l'international. Je pense que quel que soit les camps qui arrivent, ça ne changera pas, quoi, comme pour les États-Unis en partie. Quoi. Ouais.
À quoi faut-il s'attendre avec cette élection où il n'y a pas de majorité présidentielle pour l'Afrique, notamment pour les Africains ?
Pour les Africains, je ne pense pas que ça changerait grand-chose parce que l'interlocuteur principal en termes de politique internationale, ce ne sont pas les députés, même si ils sont amenés à parler et à voter pour ou contre les actions de l'État. Mais l'interlocuteur reste l'État, le gouvernement, le président. Et pour l'instant, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Mais par contre, juste pour rebondir sur ce que disait M. Koulibaly, si le RN arrivait au pouvoir, là, ça peut changer énormément.
Ça change quoi?
Parce que, imaginez, moi, je suis président malien, mes ressortissants sont persécutés ou sont privés de certains droits sur le territoire français. Vous pensez que je vais discuter de la même manière avec ce président français-là qui prend ses mesures à l'encontre de mes ressortissants qu'un autre président qui ne va pas dans le même sens? Donc voilà, ça peut vraiment changer les rapports. On a parlé du fait qu'ils veulent mettre la main sur les transferts d'argent de l'Europe vers les pays africains, qu'ils veulent contrôler tous les flux partant de l'Europe vers l'Afrique. Et en ce moment-là, les Africains ne vont pas s'asseoir et leur dire « Amen ». C'est là où ça va vraiment... Pour des observateurs de la politique internationale, je pense que ça va être très intéressant et très croustillant. Mais ça va s'effriter en ce moment-là.
Merci beaucoup. Et ainsi se referme à ce grand dialogue qui réfléchissait sur les élections législatives en France, la diaspora malienne concernée. Nous étions avec Moussa Doumbia, membre du collectif Mes Propres, Gaoussou Koulibaly, président des étudiants maliens à Dijon en France, Dr Souleymane Diarra, enseignant-chercheur à la faculté de sciences juridiques et politiques de Bamako. À la présentation, je suis Mirana Kilo Maïga. En tout cas, on se retrouve demain pour un autre débat.